Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Les dernières nouvelles de février sont présentées par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Les données sont basées sur des discussions collectées et recoupées provenant de divers groupes d'activistes sur les canaux Telegram. Voici notre analyse des investigations. Dans un contexte de tension géopolitique, cette synthèse passe en revue les campagnes d'activistes de février 2026, leurs cibles et leurs méthodes opérationnelles.
Et merci de nous rejoindre pour cette analyse.
Oui, alors aujourd'hui, on s'immerge vraiment dans une montagne d'informations brutes, des données fascinantes. On a épluché des milliers de messages issus de l'open source intelligence.
L'OSINT, oui.
Exactement, l'OSINT. Directement extrait du dark web et de multiples canaux Telegram. Le but, en fait, c'est de décortiquer ces données pour comprendre la réalité de la cyberguerre actuelle. C'est une vraie plongée dans un monde de l'ombre où chaque ligne de code raconte une histoire bien plus vaste que les grands titres de la presse.
Tout à fait. Mais juste avant d'aller plus loin dans ces données, il est indispensable de poser notre cadre d'analyse. C'est la règle d'or de nos investigations.
Qui est primordiale, oui.
Voilà. Notre lecture respecte une neutralité politique stricte et absolue. Les sources qu'on a sous les yeux sont, disons-le, remplies de messages extrêmement polarisés, chargés d'idéologie, de propagande de toutes parts.
Ouais, des deux côtés.
Des deux côtés.
Et ce point.
Et notre rôle ici n'est pas de cautionner, de soutenir ou de juger ces opinions politiques, qu'elles concernent la gauche, la droite ou les belligérants des conflits en cours.
On reste factuel.
C'est ça. On observe ces faits sous un prisme strictement cybernétique. L'objectif, c'est d'analyser les méthodes, les cibles et les structures de ces réseaux.
Et c'est un point essentiel pour garder les idées claires. Parce qu'en lisant cette masse de données, un constat saute aux yeux, le cyberespace est devenu le miroir immédiat des conflits physiques.
Le prolongement direct même.
Oui. Et principalement autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça s'étend de manière fulgurante à tous les alliés respectifs. C'est fascinant d'observer comment chaque décision diplomatique ou même économique se traduit presque dans la seconde par des opérations numériques.
Les sources illustrent parfaitement cette réactivité. On y voit des discussions très pointues sur des événements géopolitiques précis, par exemple le blocage du 20e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie.
Ah oui, ce fameux blocage.
Voilà. Les activistes analysent en détail le fait que ce blocage est maintenu par des pays comme l'Italie, la Hongrie, la Grèce et Malte. Et ils savent que c'est principalement par crainte de répercussions économiques sévères.
Et de menaces sur leur sécurité énergétique, j'imagine.
Exactement. En parallèle, on voit dans les données une observation très attentive de l'implication du Japon. Le fait que Tokyo ait débloqué plus de 15 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine.
C'est énorme.
Oui, et qu'ils envisagent d'intégrer un programme d'équipement de l'OTAN. Bah, ça ne passe pas inaperçu, ça modifie immédiatement la cartographie des cibles pour ces groupes.
Et de l'autre côté, la riposte, enfin la mobilisation numérique ukrainienne, est tout aussi active. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de voir le renseignement militaire ukrainien, le DU.
Et la Légion internationale.
Oui, la Légion, opérée à visage découvert sur Telegram. Ils ne se cachent même pas pour recruter des volontaires. Ils publient des vidéos d'entraînement hivernal aux armes à feu pour motiver les troupes.
Ils organisent aussi des collectes de fonds.
Des campagnes massives, oui. Il y a la mention d'une cagnotte spécifique qui a rapidement dépassé les 5 millions de hryvnias. On est face à une guerre hybride où la collecte de fonds en crypto côtoie le recrutement militaire sur la même application.
Et c'est toute la complexité de cet écosystème. La frontière entre l'activisme en ligne, le renseignement et la cybercriminalité est devenue poreuse.
Voire inexistante. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parlons des acteurs clés et de leurs alliances opérationnelles. Parce que c'est là que les sources détruisent nos idées reçues sur qui opère sur ce terrain.
Totalement.
On a toujours cette image du pirate isolé dans son garage. Mais là, on découvre une organisation avec une structure quasi corporate.
L'analogie avec l'entreprise est très pertinente. En fait, on observe un croisement inédit entre un modèle de franchise commerciale et des coalitions militaires. Prenons l'acteur le plus prolifique du rapport.
Le groupe Nonem 01516 ?
C'est ça. Leurs opérations ne sont pas menées en vase clos. Ils ont structuré une alliance massive. Ils s'associent publiquement avec des entités comme Vulture, Server Killers et le Z-Pentest Alliance.
Chacun apporte son expertise, quoi.
Absolument. que ce soit l'infiltration, le déni de service ou l'exfiltration de données. Le but est de maximiser l'impact.
Et il l'annonce presque avec des communiqués de presse. J'ai noté aussi cette coalition entre Overflame et ACAX. Et à côté, il y a la IRC Power Community.
Qui a une mission plus ciblée.
Oui, ils ciblent le démantèlement des plateformes de paris frauduleux. Ils exposent les bases de données pour dénoncer ces arnaques.
C'est une forme de vigilantisme numérique.
Ouais, mais certains acteurs sont motivés uniquement par le profit pur et dur. Je pense à Pharos Team.
Ah, Pharos Team, c'est la dérive commerciale par excellence. Ils opèrent une véritable plateforme e-commerce. Ils vendent des accès initiaux, des shells sur des serveurs compromis.
Avec des garanties de remplacement.
Et des soldes jusqu'à 75%.
Gérés par un service client très poli, oui. C'est fou. Mais le pire, c'est GhostSec. Ils ont carrément posté une offre d'emploi pour un braquage réel. Ils cherchaient un chauffeur en Californie.
Contre 30 000 $ ?
En espèces, oui. Pour voler un cold wallet de crypto-monnaie de 31 millions $. La cyberguerre finance la criminalité de rue.
Ce qui nous amène directement à l'analyse des vecteurs d'attaque et des cibles sectorielles. Ce qui est fascinant ici, c'est l'abandon progressif des simples attaques de défacement.
Changer la page d'accueil d'un site web, c'est fini.
Voilà. Les méthodes actuelles montrent une volonté d'impacter le monde matériel. On voit des attaques DDoS massives orchestrées par le projet DDoS IA et l'utilisation du réseau Tor.
Avec la méthode Oignon employée par Dynet.
Exactement. Et les cibles vont bien au-delà des simples sites gouvernementaux.
Concrètement, comment ça se matérialise et qui est touché? On parle de compromission de caméras, de vidéosurveillance, les CCTV.
Et surtout les systèmes SCADA et les interfaces homme-machine, les HMI.
Les logiciels qui ouvrent les vannes et gèrent la température des usines. Si on prend le HMI, on prend les commandes.
C'est ça. Les rapports mentionnent des attaques contre les systèmes ferroviaires au Royaume-Uni et en Allemagne. Des aéroports au Groenland, en Italie, en Espagne. Le traitement des eaux en Italie et en Allemagne.
L'énergie en Espagne?
Oui. Et même le secteur agricole et la domotique. Des serres agricoles et des spas au Japon. Des villas de luxe et maisons connectées en Italie et en Allemagne.
Sans oublier la défense, des fabricants de drones ukrainiens. Tout ça dirige notre discussion vers l'Europe, qui est un champ de bataille numérique bouillonnant.
Et on remarque que chaque attaque est reliée aux décisions politiques des pays visés. Chaque pays paye le prix de son soutien à l'Ukraine.
L'Espagne, par exemple. Dès qu'ils ont lancé un plan d'aide, bam!
Une attaque paralysante. No Name 05716 a ciblé les routeurs Teldat. Des centaines de milliers de clients de Movistar se sont retrouvés sans Internet.
Et une visite punitive des ministères de l'Intérieur, des Finances et des Transports.
En Italie, c'est la domotique. La prise de contrôle glaçante de la climatisation d'une villa à Capri et, plus grave, la manipulation des réseaux d'approvisionnement en eau potable.
En Allemagne, c'était pendant la 62e conférence de Munich sur la sécurité.
Des perturbations ciblées touchant les transports publics et la vidéosurveillance du traitement des eaux.
Le Danemark a été puni pour avoir fourni des chasseurs F-16. Les attaques se sont étendues jusqu'aux infrastructures du Groenland. Et en Suède, des chaudières industrielles ont été compromises.
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Justement, le niveau de sophistication technique de ces intrusions.
Si on regarde les rapports du Z-Pentest Alliance et de DDoSIA, la gravité est évidente. Ils ne font pas qu'observer, hein.
Ils modifient les mots de passe.
Ils renomment les interfaces, effacent les journaux d'erreurs, les logs. Ils prennent le contrôle manuel des pompes et des températures.
Et le cas spécifique au Japon est terrifiant. Ils ont volé le logiciel Mitsubishi Electric MT Developer 2.
Un outil pointu pour reprogrammer les automates industriels, les PLC.
Ça prouve une volonté de comprendre et de saboter en profondeur les chaînes de production par ingénierie inverse.
Tout à fait. L'objectif est de maximiser l'impact physique.
Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces pirates? Sont-ils de simples soldats de l'ombre ou cherchent-ils la gloire?
Si nous relions cela à une vision plus globale, on dresse un profil psychologique complexe. D'abord, l'idéologie et la vengeance.
Avec des mots-clés comme « time of retribution ».
Et la justification de punir la fameuse rusophobie. C'est un patriotisme exacerbé. On le voit quand un membre a obtenu l'asile politique avec le slogan « les Russes n'abandonnent pas les leurs ».
Ensuite, il y a la quête de notoriété et l'ego. No Name 05716 partage fièrement ses statistiques du Hack Tuesday.
Ils revendiquent des dizaines de téraoctets de données compromises.
Et ils ont cette rubrique ironique, ils écrivent sur nous pour se moquer de la presse.
Et enfin, l'opportunisme. Des groupes comme Darkstorm Team capitalisent sur le chaos. Ils vendent l'accès à leur puissant botnet pour 100 à 1800 $.
Pour résumer l'ampleur des dégâts, cette synthèse démontre que le cyberespace n'a plus aucune frontière. Un simple conflit géopolitique peut éteindre les lumières d'une villa italienne, retarder un train au Danemark ou modifier l'humidité d'une serre au Japon.
L'ultime éclairage analytique ici, c'est que la guerre de l'information s'est transformée en guerre de l'infrastructure physique. La négligence en cybersécurité n'entraîne plus seulement des fuites de données.
Elle crée des risques de sécurité physique réels pour les citoyens.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
Eh bien, les conséquences directes s'invitent dans le monde réel.
Il est fascinant d'imaginer la suite. Si des activistes décentralisés sur Telegram peuvent aujourd'hui manipuler la pression de l'eau d'une ville ou la température d'une chaudière suédoise pour faire passer un message politique...
Que se passera-t-il demain ?
Oui, que se passera-t-il demain lorsque ces points d'accès critiques seront entièrement gérés par des intelligences artificielles potentiellement vulnérables à de nouvelles formes de manipulation ? Une réflexion qui mérite d'être approfondie bien au-delà de ses sources.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.